VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est midi à N'Djamena au Tchad. Bonjour à tous au Tchad. Manifestation ce matin devant le palais de justice de N'Djamena. Le tribunal abrite le procès de 4 des 5 leaders de la société civile arrêtée pour avoir tenté d'organiser une manifestation pour exiger le retrait de la candidature de Idriss Déby Itno. 6 millions de Tchadiens sont appelés aux urnes dimanche pour élire leur président. Ils devront choisir entre 14 candidats en liste, dont le président sortant Idriss Déby Itno qui brigue un cinquième mandat. À Djibouti, le premier tour de l'élection présidentielle est prévu demain vendredi 8 avril. Le président Ismaël Omar Guelleh est donné largement favori. L'opposant Daher Ahmed Farah, président du mouvement pour le renouveau démocratique et le développement, ne se fait aucune illusion sur l'issue du scrutin. On l'écoute.
La commission électorale nationale indépendante, prévue par l'accord cadre signé entre l'opposition et les régimes le 30 décembre 2014, n'a pas été mise en place. Elle a été totalement rejetée par le régime qui a réactivé sa CENI à lui. De sorte que le résultat de ce pseudo-scrutin sont connus d'avance. Le vainqueur est connu d'avance, c'est M. Ismaël Omar Guelleh. Deux candidats qui réclament de l'opposition, trois qui disent indépendants. Ces gens-là se plaignent tous des conditions dans lesquelles cette pseudo-élection se déroulera, comme si c'était une découverte, alors que c'était connu, ça a toujours été de notoriété publique. Il y a en effet plusieurs candidats, mais cela ne fait pas pour autant de l'élection une élection libre et démocratique. Ce n'est pas parce que tel ou tel participe que cela change quelque chose au fond du problème.
Oumed Daoud, lui, est représentant en France de l'Union pour la majorité présidentielle. Le parti au pouvoir, il n'est pas du tout de cet avis.
Il avait songé à partir, il a répondu à la sollicitation des Djiboutiens, il revient pour achever les œuvres déjà engagées. Nous n'avions pas d'université avant 1999, nous l'avons eu en 2006. 7000 étudiants sont à l'université avec 7 filières de formation. 6500 étudiants quittent chaque année l'université de Djibouti pour arriver sur le marché de l'emploi. Les voies de chemin de fer, les routes, les ports, les infrastructures économiques qui ont été mises en place grâce à la politique économique lancée par le président de la République sont criants. Ce n'est pas du leurre, c'est quelque chose qu'on voit à l'œil nu, monsieur.
Oumed Daoud, représentant en France de l'UMP, parti au pouvoir à Djibouti. Crise libyenne, une conclusion rapide du transfert de pouvoir au gouvernement d'Union nationale s'impose, a fait savoir l'émissaire spécial onusien pour la Libye. La fragile paix de la capitale libyenne ne pourra pas tenir si le nouveau gouvernement n'est pas à même de fonctionner, a-t-il averti. Michel Joseph pour les précisions.
L'émissaire Martin Kobler a appelé mercredi le Parlement libyen internationalement reconnu, siégeant dans l'est du pays, a voté pour déterminer s'il appuie le gouvernement d'Union nationale. Faute d'une action rapide, ce Parlement risque de se retrouver marginalisé, a expliqué l'émissaire onusien dans un entretien accordé à l'agence Reuters. Depuis 2014, la Libye est dirigée par deux gouvernements et deux parlements rivaux, appuyés par des groupes armés. Formé à la suite des pourparlers sous médiation onusienne et de l'accord signé en décembre, le gouvernement d'Union nationale est arrivé à Tripoli la semaine dernière. Il est chargé de mettre un terme au chaos dans le pays. L'optimisme suscité par son déploiement était tiédi par une annonce mercredi du gouvernement de salut national de Tripoli, entité non reconnue par la communauté internationale. La mesure enjoint au ministre de ce gouvernement de rester en place, contredisant ainsi un communiqué publié mardi, selon lequel le gouvernement de Tripoli cédait la place au gouvernement d'Union nationale.
Et pour être complet sur le dossier libyen, le gouvernement d'Union nationale a pris ce jeudi le contrôle du site internet du cabinet non reconnu de Tripoli, dont le chef avait annoncé la veille son refus de quitter le pouvoir. Désormais, c'est le logo de l'État de Libye, gouvernement d'Union nationale, qui remplace celui du gouvernement de salut national qui gérait les institutions de Tripoli depuis l'été 2014. L'ONG Médecins Sans Frontières a dénoncé mercredi des pénuries de médicaments essentiels au Soudan du Sud en guerre et a appelé les autorités et la communauté internationale à agir pour éviter une crise totale. En plus d'une situation humanitaire sinistre, une urgence médicale supplémentaire et évitable est en train de se dérouler, a regretté dans une lettre ouverte la présidente internationale de Médecins Sans Frontières, Joanne Liu.
VOA Afrique en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, les forces nouvelles ex-rébellion ont acheté près de 300 tonnes d'armes et de munitions au lendemain de la crise post-électorale de 2010-2011, accusation formulée par un groupe d'experts de l'ONU dans un rapport confidentiel adressé au Conseil de sécurité de l'ONU. Guillaume Soro, le leader des forces nouvelles d'alors et actuel président de l'Assemblée nationale, se serait lui-même chargé de l'acquisition du matériel. D'après la presse ivoirienne, Guillaume Soro a rejeté ces accusations. Pour Paul Léonard Ngwe, expert en relations franco-africaines, l'ONU ne joue pas franc jeu.
C'est de l'humour, je crois, de l'humour noir auquel s'exerce le secrétaire général de l'ONU, parce qu'on peut parler de stabilité. Mais comment peut-on parler de stabilité en Côte d'Ivoire lorsque tous les acteurs, les belligérants de la Côte d'Ivoire, hormis celui qui a été agressé, sont aujourd'hui en liberté et se meuvent librement en Côte d'Ivoire? Nous avons encore appris récemment le séjour de l'ancien président français Sarkozy en Côte d'Ivoire. Nous savons que l'ancien président du Burkina Faso se trouve en Côte d'Ivoire, et d'ailleurs il a acquis la nationalité ivoirienne. Nous savons que les anciennes forces rebelles, les responsables de ces forces rebelles sont aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire, et nous savons que déjà des tiraillements se font entrevoir entre ces différents protagonistes dans la perspective des élections 2020.
Et le dossier de ce journal, 422 millions d'adultes dans le monde souffrent du diabète, principalement dans les pays en développement, soit 4 fois plus qu'en 1980. En 2012, cette maladie chronique et les affections qui sont liées ont tué au total 3,7 millions de personnes. Dans un rapport mondial sur le diabète publié à l'occasion de la Journée mondiale de la santé ce jeudi 7 avril, l'Organisation mondiale de la santé appelle à une action planétaire pour mettre un terme à la recrudescence du fléau et améliorer les soins, y compris en Afrique, où les cas explosent. Pour faire le point, Jacques Aristide a joint le docteur Étienne Krug de l'OMS. On l'écoute.
Mais très longtemps, le diabète était considéré une maladie des pays riches, mais maintenant, c'est une maladie qui touche toutes les parties du monde, y compris l'Afrique. On a vu un doublement du nombre de cas en Afrique les 35 dernières années.
Alors, qu'en est-il plus particulièrement de l'Afrique subsaharienne? Est-ce que, par exemple, vous avez noté des choses particulières dans des pays précis?
J'ai pas d'exemple de pays précis, mais on sait que le problème est en train de s'aggraver dans tous les pays africains, avec une prise de poids de la population. Et puis on sait aussi qu'il y a des efforts qui se font, par exemple pour améliorer l'accès aux médicaments, qui est un problème. On sait que dans seulement 23% des pays, il y a un accès convenable à l'insuline, par exemple. Par contre, certains pays sont en train de faire des efforts. Le Mozambique, la Zambie, par exemple, parviennent à subsidier l'achat de l'insuline pour permettre aux personnes qui n'ont pas la possibilité de quand même en acheter. Et c'est un médicament très important qui peut être une question de vie ou de mort pour ceux qui sont touchés par le diabète.
Que recommande l'OMS pour donc mettre un terme à la recrudescence du diabète et améliorer les soins, plus particulièrement dans les pays pauvres comme en Afrique?
D'une part, il faut s'attaquer à l'augmentation du diabète, c'est-à-dire le surpoids, donc en augmentation de l'activité physique et la qualité de l'alimentation. Ça commence au plus jeune âge avec encourager l'allaitement maternel et une alimentation saine dès le plus jeune âge, parce que c'est là que les habitudes se prennent. Et puis augmenter l'activité physique, encourager et s'assurer que ça puisse se faire de manière sûre. Le vélo, la marche à pied pour aller à l'école ou au travail, par exemple, utiliser les escaliers. Donc ça, d'une part, ça c'est la prévention. D'autre part, il faut travailler pour nous assurer que dans tous les pays, il y a un accès aux médicaments pour les diabètes et les tests diagnostiques. Là aussi, c'est une question de prix et de distribution.
En bref, les pouvoirs publics, comme en Afrique, par exemple, ne doivent plus considérer le diabète comme une maladie des riches et donc ils doivent, dès maintenant, prendre des mesures.
Tout à fait. Les mesures que les gouvernements peuvent prendre incluent par exemple des taxes sur les boissons sucrées, des recommandations pour que le secteur privé réduise les quantités de sucre et de graisse dans les aliments. Aussi s'assurer par exemple qu'il y ait la sécurité routière pour qu'on puisse marcher et faire du vélo et du sport dans la rue sans se mettre en danger, car l'activité physique est extrêmement importante. Promouvoir l'aliment maternel, tout ça c'est des choses qu'on peut faire assez facilement.
Le docteur Étienne Krug, directeur du département prise en charge des maladies non transmissibles à l'OMS, il était en ligne de Genève en Suisse. Et puis en Syrie, environ 250 employés d'une cimenterie sont portés disparus. Ils ont été attaqués par l'État islamique. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. Le prochain journal c'est dans 50 minutes avec Henri Francisque. Pour ma part, bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.